La fonction publique est en plein bouleversement depuis plusieurs années, mais elle ne semble jamais avoir été autant chahutée depuis le gouvernement Macron. Mesures dégradant les salaires nets des agents publics, rétablissement du jour de carence, mépris pour les conditions de travail, mise en place de plans de départ volontaire, contractualisation parfois à outrance, 120 000 suppressions de postes en 5 ans et un sentiment d'abandon des missions de service public. C'est un ras-de-bol qui s'exprimera le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme et le 22 mars prochain dans le cadre d'une contestation nationale. Les trois fonctions publiques, État, territoriale et hospitalière, ainsi que les cheminots et les salariés d'Enedis et de GRDF se mobilisent. Nous sommes donc allés à la rencontre du secrétaire départemental Force Ouvrière, Sébastien Trorcelier, représentant les trois fonctions publiques, du secrétaire FSU Stéphane Picou, représentant la fonction publique d'État, principalement les enseignants, mais aussi les agents administratifs et les infirmiers et certains fonctionnaires territoriaux, et de la secrétaire départementale CGT, Testé Nathalie, représentant les professions de santé et l'action sociale. Nathalie Testé, CGT, nous explique le programme de la mobilisation.
Pour le 8 mars, nous avons décidé, en prolongement du mouvement qui a eu lieu le 30 janvier, qui a quand même été un succès, nous avons décidé le 8 mars de faire une journée de grève et d'action et avec, en association avec les aides à domicile concernant les EHPAD. On a estimé que une majorité d'employés dans les EHPAD, c'était des femmes, et que, hélas, pour vous, messieurs, il y a beaucoup plus de résidentes que de résidents dans nos EHPAD. Nous accueillons plus de femmes, des femmes qui, souvent, ont des très petites retraites, qui, bien sûr, n'ont pas toutes travaillé, ont élevé leurs enfants, et ont que des petites pensions de réversion, ce qui ne leur permet pas de payer les jours d'hospitalisation et dans les EHPAD.
La grande de la fonction publique semble donc partir d'un constat commun. La reconnaissance de leur travail serait perdue. Monsieur Trosselier, Force Ouvrière, et Nathalie Testé, CGT, nous expliquent.
Oui, elle est perdue depuis quelques temps. Je pense que les fonctionnaires nous oublient beaucoup depuis des années. La fonction publique d'État a perdu beaucoup d'emplois depuis 2004-2014. Une perte d'emplois énorme. Et on tape beaucoup sur les fonctionnaires et que depuis des années, on a gelé beaucoup le point d'indice. On nous a envoyé sur PPCR et PPCR est gelé pour 2018, donc on tape beaucoup sur le fonctionnaire.
Oui, on entend toujours parler de notre soi-disant statut de privilégié. Je ne vois pas en quoi nous sommes privilégiés, par exemple à l'hôpital, où on ne peut même pas se dire « tiens, le week-end prochain, je vais être en repos », parce qu'on est la plupart du temps rappelé, on est corvéable à merci pour des salaires quand même qui ne sont pas les salaires de hauts fonctionnaires.
Monsieur Picou, FSU, nous en dit plus.
Aujourd'hui, on est plus au fonctionnaire bashing, comme on dit, là, qu'à une reconnaissance véritable de nos métiers. D'ailleurs, ce qui illustre le mieux qu'on est mal reconnu, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des agents ou des enseignants, par exemple. Donc, on a un gouvernement qui est dans la lignée des précédents et en train de vouloir encore une fois prendre la fonction publique comme variable d'ajustement budgétaire. Et ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va subir encore une fois un gel du point d'indice, donc des salaires qui vont rester bloqués pendant le quinquennat, vraisemblablement. On a une remise en cause d'accords qui avaient été signés avec la précédente mandature qui est sur les carrières et les rémunérations, qui est remise en cause alors que c'était un engagement, c'était une signature par l'État du PPCR qui est remise en cause sinédiée par l'exécutif. On a une augmentation de la CSG qui est mal compensée, en particulier pour les années qui viendront à la suite de 2018. On a la remise en place d'un jour de carence. Enfin, on n'a jamais connu un gouvernement qui mettait toutes ces mesures anti-fonctionnaires en même temps.
Je crois que c'est un tout. On a eu le gel du point d'indice. On a eu aussi là le jour de carence. Encore pour faire croire à l'opinion publique qu'on est des tirs au flanc. Je ne crois pas. On est rappelé, on revient régulièrement. On ne sait même pas souvent quand est-ce qu'on va avoir nos vacances. Les heures supplémentaires, on n'en parle pas. Ça explose. Donc, je pense qu'on a besoin quand même de porter nos revendications.
Mais alors, un profond mal-être touche-t-il les fonctionnaires ?
Oui, un gros mal-être, on le voit sur plein de choses. On peut prendre aussi l'exemple sur les EHPAD qui a eu le 30 janvier, qui est quand même un grand mouvement qui a marché, je pense. C'est des fonctionnaires qui n'en peuvent plus. On travaille vraiment mal parce qu'on n'en peut plus. On est épuisés, les gens sont épuisés.
Il est très très important. Je pense que la journée, même la journée du 30 janvier, on a pu mesurer le ras-le-bol, la détresse des salariés des EHPAD, mais il en va de même à l'hôpital. On s'aperçoit que, c'est ce que j'avais repris l'exemple le jour qui m'a frappée, c'est la première fois depuis que je travaille quand même à l'hôpital, ça fait des années, que je vais accompagner quelqu'un parce qu'elle refusait de rentrer dans le statut. Elle voulait démissionner. Elle ne voulait pas passer titulaire parce qu'en 3 ans, elle était dégoûtée de la façon dont elle devait travailler et aussi de nos salaires quand même, parce que c'est quand même pas non plus des salaires qui... Par rapport à l'engagement, aussi aux formations qu'on a, aux responsabilités, on ne peut pas dire que c'est très cher payé.
Il y a un véritable mal-être et puis il y a des conditions de travail qui se dégradent, puisque aujourd'hui, on ne donne pas forcément les moyens aux services publics de fonctionner correctement. Et c'est une méthode qui permet certainement de remettre en cause... le service public dans son fonctionnement tel qu'on le connaît actuellement. Si on prend par exemple la SNCF, on a tout fait pour le priver des moyens de moyens de fonctionnement, pour montrer aux usagers finalement que c'est quelque chose qui n'est pas viable, et pour derrière dire il faut qu'on fasse une grande réforme pour pouvoir finir de le tuer, moi je pense. Hein. On a connu ça avec La Poste, on a connu ça avec EDF, on a connu ça avec France Télécom, et aujourd'hui, on est dans la même logique. Et c'est ce que l'on craint, nous, pour l'éducation nationale, puisque aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est pareil, on n'a pas vraiment les moyens de fonctionner. On s'aperçoit que les recrutements ne sont pas à la hauteur des besoins, donc on a les premiers contractuels qui arrivent dans le premier degré, c'est des choses qui existent aussi dans le second degré, et qui sont... Enfin, le volume de contractuels est suffisamment conséquent aujourd'hui. On avait des problèmes de remplacement, oui. Enfin, l'an dernier, là, les problèmes de remplacement étaient énormes. Et le service public, tous les ans, il se dégrade. Et donc, si on fait le parallèle avec ce qui se passe dans les autres entreprises publiques qui existaient et qui sont aujourd'hui passées au privé, comme la SNCF, enfin, pas la SNCF, mais comme La Poste, comme Orange, comme France Télécom, comme EDF, aujourd'hui qui sont devenus privés et qui sont passés par ces étapes de contractualisation, on ne peut que s'inquiéter pour l'éducation nationale.
Un sujet cristallise aussi les débats, la contractualisation croissante des postes.
Nous, on se dirige, enfin, on voit dans le premier degré, les premiers contractuels, ça fait 2 ans qu'on en connaît. Avant, on n'avait pas de contractuels. Et c'est quelque chose qui est organisé par le ministère. C'est-à-dire que quand on fait des concours de recrutement d'enseignants, on ne prévoit pas un nombre suffisant d'enseignants qui permettent de répondre aux besoins. C'est que ça. Et donc... le ministère est en train d'organiser cette contractualisation et ça pose un véritable problème d'égalité aussi de traitement des usagers, puisque un contractuel, c'est quelqu'un qui arrive au débotté sur le terrain, qui n'a aucune formation et qui se retrouve lui-même en difficulté et qui peut mettre en difficulté aussi des usagers. Donc oui, ça pose question. Ça pose une véritable question.
Bon, voilà, ce qu'on veut, le fonctionnaire, ça sera que des contractuels. On fera que du droit privé au lieu des fonctionnaires. On en a déjà pas mal, hein, de contractuels dans le système, dans la territoriale, dans la fonction publique hospitalière, il y a énormément de contractuels. Mais je trouve que c'est... Voilà, on tape encore. Voilà. Mais le contractuel, c'est un coût qui disent que ça revient pas cher. Mais si, ça revient cher. Je pense qu'il faut penser aussi aux jeunes, aux gens. Pourquoi il n'y a plus personne qui reste en Creuse? Parce que si on ne leur fait pas de contrat CDI ou stagiarisation, ils ont quel avenir? Rien. Aucun avenir. Ils ne peuvent pas acheter ni de voiture, ni d'acheter la même maison. Ils ne peuvent pas faire d'emprunt. Ils ne peuvent rien faire.
De plus en plus, on a des gens sous contrat. On s'aperçoit, l'autre jour, je suis allée sur une EHPAD dont j'étais un SIAD. La personne que j'ai mis en face de moi avait eu 58 contrats. Et des fois, des contrats à 25%, d'autres à 75%. Bon, l'été, elle savait qu'elle travaillerait par contre à 100%. Ben, en fait, elles n'en peuvent plus. Elles sont corvéables à merci. Et elles sont obligées de dire oui à tout. Dans l'espoir toujours de pouvoir obtenir une stagiarisation et en fait qui n'arrive pas.
Pour la fonction publique, sous couvert de modernisation, l'État remet juste en cause leur profession.
C'est une technique largement éprouvée et qui a fait ses preuves et qui a l'air de trouver la même logique dans la plupart des services publics aujourd'hui. Et c'est ce que nous craignons fortement, nous. Et donc c'est quand même une chose qui concerne aussi, qui concerne les fonctionnaires, puisque eux, ils sont mal considérés par l'exécutif, mais ça concerne surtout les usagers. C'est-à-dire que demain, quel service public on veut pour nos territoires, et en particulier les territoires ruraux?
Je pense qu'il la remet en cause surtout. Quoi. Mais de toute façon, ils ne savent pas où ils vont. Je pense qu'un jour, on nous propose quelque chose, le lendemain, on change. Je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment. Vraiment, ils croient que... voilà, ils nous tapent dessus tout le temps.
Oui, moi, je ne vois pas ce qui serait moderne dans le fait de ne plus avoir de service public. Moi, je pense que, plutôt, justement, le service public, c'est la modernité. C'est l'égalité des soins pour tout le monde. Et en ça, je ne vois pas en quoi les cliniques et tout ce qui est la santé marchande pourraient avoir quelque chose de moderne. On s'aperçoit que notre profession n'est plus du tout attractive dans les écoles, aussi bien l'école d'infirmière que l'école des soignantes. Les écoles ne font plus le plein. Les gens ne veulent plus faire ce métier qui était il y a quelques années. Moi, je pense quand j'ai décidé de travailler dans la fonction publique hospitalière, je trouvais que c'était un métier formidable. Et maintenant, de la façon dont on le fait, franchement, c'est plus du tout attractif.
Monsieur Picou nous exprime ses revendications.
Première revendication, à mon avis, c'est d'arriver à trouver une mobilisation conséquente des fonctionnaires, mais aussi des usagers. C'est-à-dire que la première revendication, pour moi, c'est d'avoir un service public qui ait les moyens de fonctionner et qui puisse donc rendre le service pour lequel il a été créé et qui puisse aussi rendre les fonctionnaires qui y travaillent heureux d'y travailler, parce que pour pouvoir rendre un bon service, il faut avoir de bonnes conditions de travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on a quand on a des pénuries d'enseignants, quand on a aujourd'hui des remplacements qui ne sont pas assurés. Ça met en difficulté et la classe dans laquelle il n'y a pas d'enseignants, mais aussi l'ensemble de l'école qui est obligée de prendre en charge les autres élèves. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à mon avis, cette manifestation, elle n'est pas seulement à destination des fonctionnaires, elle est aussi et surtout, moi je pense, à destination des usagers qui doivent se poser la question de savoir ce qu'ils souhaitent pour demain. Est-ce que les écoles... moi je pense au plateau, hein, c'est Radio Massivière. Et est-ce que demain, il faudra faire 50 km pour trouver une école dans le coin? Parce que aujourd'hui une classe unique à 10, on pense que c'est pas rentable, mais... C'est ça, c'est une logique de rentabilité qui est en train de se mettre en place, qui est extrêmement dangereuse et qui doit être évaluée par les parents, par les usagers, et qui doivent se poser la question de savoir si c'est vraiment ce qu'ils souhaitent pour demain. Parce que les fonctionnaires, ils sont sûrement mal payés, ils ont de mauvaises conditions de travail, mais ceux qui vont en souffrir le plus, à mon avis, ce sont les élèves et tous les usagers des services publics demain.
Sébastien Trancelier, quant à lui, est pessimiste quant à l'avenir de la fonction publique dans nos campagnes.
Moi, je pense qu'il n'y aura plus de... Ça, on le voit bien, déjà, on a vu plein de choses, des trésors publics fermés, on voit plein de... Voilà, ils s'imaginent que tout le monde a Internet. Mais non, vous regardez dans des réseaux, des endroits en creuse où déjà Internet ne passe pas. Donc, je pars d'un principe, il faut arrêter, je pense. Et puis, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas Internet et qui aimaient bien aller au marché. Et le matin, c'était leur programme d'aller au marché, aller voir le trésor public, à la poste. Et tout ça, c'était leur petit truc. On leur enlève tout, on enlève tout. On a une perte d'humains, on met des ordinateurs, on met à la place d'humains. Enfin voilà, on veut nous faire croire que ça va faire des économies, je vois pas où. On perd, par contre, on fait perdre des habitants comme en Creuse. Moi, je dis que ça va perdre de plus en plus. Et puis, je pense que là, c'est grand temps que les gens se réveillent, et les élus aussi, surtout. Je pense que les élus, c'est eux qui représentent. Ils sont élus, mais bon, on se demande ce qu'ils font. C'est qu'il faut qu'ils pensent à regarder ce que devient la Creuse et penser que y a plein de choses qui ferment et que ça va continuer longtemps. La souffrance des gens, la souffrance de tout le monde, je pense qu'on est mal paré.
Pour le syndicat, le fonctionnaire trop payé relève juste du mythe.
Aujourd'hui, un fonctionnaire, il perd pas de l'argent tous les jours, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais sur sa feuille de paye, c'est tous les ans, il a un peu moins... ne serait-ce qu'avec la CSG qui augmente, les augmentations de pensions civiles, les remises en cause du PPCR. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Et souvent, le fonctionnaire d'éducation nationale est quelqu'un qui est diplômé. Et à diplôme égal, il gagne Certainement moins que quelqu'un qui serait dans le privé.
En tout cas, dans la fonction publique hospitalière, oui, c'est un mythe. Quand on sait que, on peut prendre l'exemple du privé, hein, dans le privé, quand ils font des heures de nuit, c'est quand même très bien revalorisé. Nous, c'est 1,07€ de l'heure de nuit. On ne peut pas dire que... Et selon la façon dont on travaille le week-end, le dimanche, nous, ce n'est pas multiplié par 3. En moyenne, c'est 40€ que l'on touche en supplément.
Mais qu'en est-il de l'égalité homme-femme dans la fonction publique ?
Oui, ben c'est lié à la condition féminine et à tout ce qui peut... Les congés maternité, enfin voilà, c'est... Et puis aussi au système de promotion qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup moins bien payées que les hommes. Et les différentes réformes qu'on a pu connaître, principalement sur les retraites, ont aussi des conséquences désastreuses pour les femmes aujourd'hui, oui. Et c'est bien pour ça que le 8 mars, il y a aussi un appel à manifester pour la Journée internationale des droits de la femme. En Creuse, ça se passera, je crois, à 15h devant la préfecture aussi. Rassemblement à 15h devant la préfecture.
Alors nous, c'est plus pernicieux dans la fonction publique hospitalière, parce qu'un infirmier ou une infirmière vont bien être payés de la même façon. Par contre, on s'aperçoit que dans les métiers où il y a beaucoup plus d'hommes, comme dans les métiers techniques, on s'aperçoit qu'un ingénieur, on pourrait dire à un niveau de responsabilité égal ou différente, mais égale à celui, par exemple, d'une sage-femme. La sage-femme, quand même, qui a fait des études de médecine, qui peut prescrire et tout ça. Il y a un écart de salaire entre les deux. On s'aperçoit que, pareil, dans les techniques, certains techniciens supérieurs vont toucher des primes d'encadrement. Des primes, alors qu'une infirmière, qui, elle, va encadrer des étudiants, elle, jamais elle touchera de primes d'encadrement. On s'aperçoit quand même que les égalités ne sont pas aussi palpables que dans d'autres professions, mais elles existent.
Pour cette mobilisation du 22 mars, les syndicats souhaitent une véritable convergence des luttes. Tout le monde dans le même bateau.
Ben oui, parce qu'on est tous là pour rendre un service public. Qu'à un moment, on a tous appartenu à la fonction publique, ou que on a, je pense à EDF, à France Télécom, enfin à Orange, tous ces organismes, toutes ces entreprises ont appartenu à un moment à la fonction publique. Et aujourd'hui, on a une expérience. On sait que quand on privatise, on sait où on va. Et donc que ces entreprises rejoignent les luttes des fonctionnaires et de tous ceux qui rendent un service public, moi, je trouve ça, c'est tout à fait logique. Et ça pose la même question de savoir quel service public on veut pour demain, quoi.
Oui, mais je trouve qu'on n'est pas. Je trouve que le 22, voilà, c'est fonctionnaire, mais c'est pas que pour les fonctionnaires cette grève. Je pense que c'est pour les usagers. Je pense que c'est important que les usagers se réveillent. Je pense que tout le monde devrait se réveiller. Je pense que, voilà, moi, je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir faire quelque chose tous ensemble et bloquer le pays, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que je pense que est-ce qu'ils vont même comprendre? Je ne sais même pas si l'État comprendrait si on bloque le pays, parce que je ne sais pas là-haut ce qu'ils en pensent.
L'égalité de traitement sur le territoire semble être déjà mise en cause, selon Stéphane Picou et Nathalie Testé.
Ben moi, je peux parler principalement des écoles, quoi. On a vu dernièrement des injonctions ministérielles, ce soit sous le précédent quinquennat, là où il y avait une priorité pour les REP+, ce qui est louable, hein, avec quelques moyens supplémentaires, mais tous ces moyens peu supplémentaires sont partis dans les zones urbaines, puisque les REP+, appartiennent toujours aux zones urbaines. On a aujourd'hui Macron qui a décidé de mettre les CPA12. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. CPA12, CE1A12, ça aussi, pour la Creuse, c'est principalement... Donc ça, c'est en REP et en REP+, aussi. C'est principalement dans les villes. Il n'y a pas de REP... Enfin, la REP qui existe, elle est autour de Bourganeuf, mais là où on choisit de mettre des moyens supplémentaires, c'est principalement en ville. Donc ces mesures-là, c'est déjà fait au détriment du rural, et ça continue. Enfin, on a connu aussi le protocole d'offres scolaires, je ne sais pas, ça ne vous dit rien, qui était quelque chose qui incitait les petites communes, principalement, à regrouper leurs écoles et à centrer les moyens sur des bourgs, et principalement sur les gros bourgs. Et quand c'est mal utilisé, comme ça a été fait par le précédent inspecteur d'académie, on s'aperçoit qu'elle a créé de grandes inégalités sur le territoire, puisqu'elle a privilégié les postes dans les villes, en disant c'est là que à terme devrait se concentrer l'offre scolaire. Donc les inégalités, elles sont en marche.
Et bien là, en ce moment, il y a un projet, par exemple, de rapprochement entre l'hôpital et la clinique de La Marche, soi-disant pour permettre la continuité des soins. J'ai quand même quelques inquiétudes. On s'aperçoit que dans d'autres départements, les rapprochements ont été voués à l'échec, ou alors il y a des effets pernicieux. Je ne suis pas sûre que cela permettra l'égalité de traitement sur le département de la Creuse. J'ai plutôt peur que la clinique soit là pour capter en fait les actes de chirurgie de l'hôpital public.
Les syndicats ont le sentiment que la politique du gouvernement, notamment avec les ordonnances, prive les citoyens d'un débat sur le service public.
Comme le précédent... La précédente mandature qui passait par le 49-3 sur la loi travail, quoi. C'est la même méthode. On prive l'Assemblée nationale et nos députés, nos sénateurs, d'avoir le véritable débat qui devrait s'imposer, même si on sait qu'aujourd'hui, les députés qu'on a et qui sont souvent en marche ne sont pas là pour au titre de la séparation des pouvoirs. Hein. On a plutôt l'impression que ce sont les députés Gaudillot et on aimerait bien justement qu'ils jouent leur rôle à un moment de contrôle de l'exécutif.
Je pense que là, ils veulent aller vite pour que les gens n'aient pas le temps même de réfléchir, de se poser pour réfléchir, pour eux pouvoir débattre de quel choix de société ils veulent pour l'avenir. Est-ce qu'ils veulent un service marchand qu'un service marchand ou alors un grand service public, par exemple de la santé ou de l'éducation, bien sûr, dans d'autres domaines.
Ils mettent que des ordonnances, c'est la même. Enfin, pour moi, on nous donne toujours que des ordonnances. On peut être dans la rue, on mettra des ordonnances. Donc, si vous aimez, je pense qu'on a un président de la République qui a décidé de faire des réformes sans avis des citoyens. Quoi. Je pense qu'il n'en a rien à foutre. Je pense qu'il met en force la force. Voilà, il pense qu'il va passer. Voilà. Faut pas oublier que c'est un président pour les riches, hein, pas pour les... Voilà, c'est pas pour nous. Je pense que voilà, il est en train de taper sur tout le monde et malheureusement sur les retraités, sur tout le monde il tape. Moi je trouve que c'est dégueulasse. Je pense que pour moi pour le 22, je pense que cette grève devrait être pour tout le monde. Pour moi, enfin, je pense que c'est vrai que tout le monde devrait être dans la rue et se dire voilà, stop, on arrête, parce qu'on tape et sur le fonctionnaire, mais sur les usagers aussi, parce que bientôt, il y a des usagers, ils se plaignent après. Ils disent oui, on ne peut plus aller payer, par exemple, nos impôts, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Mais ouais, mais il faut vous réveiller, les gens, parce que si vous ne vous réveillez pas, ben, ça sera trop tard. C'est vrai que c'est dommage d'en arriver à ce niveau-là, mais je pense que la Creuse va mourir s'il n'y a plus de fonctionnaires. Et je parle bien que les privés, s'il n'y a plus de privés, on voit bien, il y a de moins en moins d'industrie en Creuse. Hein. Non, je parle. Enfin, moi, je veux juste dire qu'il faut être soudé. Et puis, déjà, nous, on a un mouvement qui est jeudi prochain, le 8, pour la journée de la femme, hein, qui est devant la préfecture. Et je pense que c'est la suite du 30 janvier pour les EHPAD. Et on est reçu par le préfet. Et je pense que ça aussi, c'est un mouvement qui doit continuer pour les EHPAD, parce que voilà, c'est la fonction publique. Voilà, on tape dessus aussi là-dessus. Et je parle que les familles, voilà, tout le monde, ça devrait être tout suivi. Je parle qu'il faudrait faire une génération de tout et un jour de grève, vraiment un gros truc, quoi. Voilà.
Venez nombreux le 8 mars pour défendre et à la fois les salariés des EHPAD et aussi les conditions d'accueil des résidents. Et le 22 pour défendre les services publics de qualité sur le département de la Creuse.
C'était donc le secrétaire départemental Force Ouvrière, Sébastien Trossolier, le secrétaire départemental FSU, Stéphane Picou, et pour la CGT, Testé Nathalie, secrétaire départementale pour la Santé. Pour rappel, deux jours de mobilisation sont organisés. Un en soutien aux employés des EHPAD à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars à 15h devant la préfecture à Guéret, et l'autre pour une journée de contestation nationale le 22 mars.